Voilà, donc on va commencer. Alors laissez-moi d'abord vous souhaiter une très bonne année de la part de tous ceux qui travaillent au CIF. On est vraiment heureux de vous retrouver et je souhaite que ce nouveau cours continue à vous porter, à vous stimuler, à vous nourrir. Je veux dire qu'on a ce trimestre-ci deux personnes qui viennent juste pour le trimestre, trois même. Philippe qui n'est pas là encore, qui est un ancien du CIF, Marie-Madeleine qui est une ancienne du CIF ultra fidèle, hein, on peut la montrer en exemple. Elle fait partie des groupes bibliques depuis de nombreuses années et en plus elle a entraîné une amie à avec elle, donc prenez exemple. Donc voilà, donc ils connaissent le CIF, etc. Mais c'est toujours sympa de se sentir un peu accueilli dans un groupe qui est déjà constitué. Et puis je réfléchissais ce matin à la manière dont d'introduire le cours d'Isaïa, que je remercie vraiment d'être là parce qu'il a traversé quelques jours difficiles. Et c'est un grand ami du CIF, qui aime beaucoup le CIF, beaucoup les étudiants du CIF. Et vraiment un de nos plus fidèles soutiens. Et il est là ce matin fidèle au poste, alors que c'était pas forcément facile pour lui. Donc merci Isaïa. Et je réfléchissais à comment introduire ce cours. Et je sais pas si vous avez remarqué que ce matin, le psaume est magnifique. Et il nous dit: qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci? Et je me dis, ben là, on est en plein dedans. On est dans les sacrements, ce sont vraiment les gestes de Dieu pour nous, et c'est ce que vous allez découvrir petit à petit tout au long du cours d'Isaïa. Ce ne sont pas des gestes anodins, ce ne sont pas seulement des rites, des habitudes, c'est beaucoup plus que ça. Et je me disais aussi que je m'aperçois qu'à ce stade où vous en êtes de votre parcours, presque les deux tiers, vous devez commencer à articuler beaucoup de choses entre elles. Il y a un an, vous étiez dans le cours de Christologie, et vous découvriez comment Dieu nous rejoint dans le Christ. Et bien là, il nous rejoint d'une autre manière, à travers le Christ dans les sacrements. Et puis il y a encore quelques semaines, vous étiez dans le cours sur l'Église, et vous voyez comment le lien se fait. Cette Église que vous avez découvert peut-être autrement que seulement une institution austère, elle est aussi le lieu où se donnent ces sacrements. Donc on voit que plein de choses commencent à se mettre en place. Et je vous souhaite d'en découvrir encore beaucoup de nouvelles dans ce cours. Je vous souhaite un bon cours.
Merci Aude, merci à vous d'être là aujourd'hui. Voilà. Peut-être un petit moment de présentation personnelle, comme ça, nous passerons 3 mois ensemble, donc du coup vous me connaîtrez d'emblée mieux, mais voilà. Donc je m'appelle Isaïa Gazzola, le mot vous dit que je suis italien d'origine. L'accent aussi, j'ai un accent italien. Et je suis moine de l'abbaye de Reims. Vous voyez où c'est, de Reims, en face de Cannes, un lieu paradisiaque, comme on dit, au milieu de la mer.
Ah, moi je suis allée, c'est formidable.
Ah, ouais, c'est formidable, n'est-ce pas? Mais depuis quelques années, donc, je suis envoyé ici à Paris pour enseigner la théologie. Donc, j'ai fait tout mon parcours théologique, de formation théologique à l'Institut catholique de Paris, notamment et plus précisément à l'Institut supérieur de liturgie. Donc je suis plutôt un liturgiste, comme on dit, quelqu'un qui s'intéresse à ces questions du culte, des rites, des sacrements. Et donc, et ici à Paris même, où j'habite la plupart de l'année, j'habite chez les bénédictins qui sont dans le 16e arrondissement, rue de la Source, à côté des orphelins d'Auteuil, vous voyez, dans ce coin-là. Il y a un monastère, assez souvent on ne sait pas qu'il y a un monastère, mais il y a bien un monastère depuis le siècle dernier qui est installé là, donc j'habite là, puis je vais régulièrement dans mon monastère à l'Erens. Et donc, mon parcours a fait que, depuis le CIF, on m'a appelé pour remplacer quelqu'un qui est remplaçable, qui est Louis-Marie Chauvet, un prêtre français, théologien, sacramentologue, je vous apprends un mot, on y reviendra, quelqu'un qui s'occupe particulièrement de la théologie des sacrements, qui a donné ce cours une bonne partie de sa vie, et qui m'a dénoncé, comme on dit, pour que je suis la CEPA. Et donc nous allons parler des sacrements, comme disait Aude.
Si vous prenez le plan, on va très rapidement regarder ensemble le plan de ce trimestre. C'est un plan qui va nous amener à voilà, qui est au fond de la salle. C'est gentil de le mieux la marche. Voilà, peut-être ici.
Vous voyez donc que lundi dernier, nous avons parlé de manière générale sur qu'est-ce qu'un sacrement. Vous voyez, comme on n'a pas pu comme j'ai pas pu être présent, je me suis dit, on verra avec Aude ou le casé s'il y en a besoin. Vous savez qu'il y a deux manières pour apprendre une langue. Ou bien on apprend le vocabulaire, l'alphabet, puis on apprend la langue, ou bien on se jette directement dans la langue, comme on fait aujourd'hui, on parle tout de suite la langue qu'il faut parler. Et donc ce sera le cas pour nous cette année. On va commencer à parler des sacrements de l'initiation chrétienne. On garde quand même le programme qui était passé, et puis peut-être, c'est pas plus mal, vers la fin du parcours, vers le milieu, n'importe, on va reprendre qu'est-ce qu'un sacrement. Nous le comprendrons ensemble du moment où nous allons voir sacrement après sacrement. Donc vous voyez, nous allons commencer par la porte d'entrée. Il y a toujours une porte par laquelle on rentre dans une situation, dans une maison, dans un domaine. Et là, ce sont ce qu'on appelle au pluriel les sacrements de l'initiation chrétienne. On y reviendra tout à l'heure quand nous commencerons cette partie. C'est-à-dire, on appelle généralement, on est habitué depuis un moins un demi-siècle, parler du baptême, de la confirmation et de l'Eucharistie, ces trois sacrements, comme des sacrements de l'initiation chrétienne. Certaines théologiens ont même dit, sont trois, mais c'est un seul sacrement. Pourquoi ? Parce que tous ces trois font rentrer dans la vie chrétienne. On ne peut pas, vous n'y avez jamais pensé, mais on ne peut pas, par exemple, accéder au sacrement de la réconciliation sans avoir été baptisé, n'est-ce pas ? On ne peut pas être marié sans avoir été baptisé. On ne peut pas être ordonné prêtre ou diacre ou évêque sans avoir été baptisé. Donc vous voyez, il y a ces trois sacrements, baptême, confirmation, Eucharistie, ce sont les sacrements qui initient, d'où le mot d'initiation, à la vie chrétienne. Voilà. Et donc nous aurons deux moments pour parler de cela. Vous verrez, nos séances, surtout, on peut aller trois. Donc deux heures, quoi qu'on fasse, c'est toujours un peu pas trop mode, mais c'est bien comme ça. Et, voilà. Et puis nous allons donner plus de place, vous voyez, au sacrement de l'Eucharistie. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, de ces trois sacrements de l'initiation chrétienne, l'Eucharistie est celle que nous vivons tout au long de notre vie. Je ne sais pas si vous avez jamais réfléchi. Nous avons été baptisés une fois. On ne nous baptise pas une deuxième fois. Nous avons été confirmés une fois. Mais l'Eucharistie, on peut y participer autant qu'on veut. C'est-à-dire au moins une fois par jour, au moins une fois par semaine, disons. Vous voyez ? Mais il y a la possibilité d'accéder à l'Eucharistie. Et nous verrons donc plus particulièrement qu'est-ce que c'est l'Eucharistie. Pourquoi l'Eucharistie est ce sacrement qui nous permet d'entretenir la vie baptismale tout au long de notre vie. Et puis par la suite, nous allons prendre tour à tour, vous voyez, on donnera moins de place parce que les séances sont celles qu'elles sont. Les différents sacrements qui nous sont donnés dans leur ordre. D'abord le sacrement de réconciliation, c'est-à-dire le sacrement qui justement ravive, nous fait rentrer à nouveau dans la communion avec Dieu et nos frères et nos sœurs dans la vie baptismale. Ce sacrement est là pour nous dire la grâce baptismale. Puis l'ordre, c'est-à-dire le sacrement qui est destiné à ceux qui, parmi les baptisés, sont appelés à être au service de l'Église et des ministères dans l'Église, l'évêque, l'épiscopat, le presbytérat, le diaconat. Hein, bon, l'ordre comprend aussi cet ordre singulier, mais ça, là-dedans, il y a trois types de services, de ministères. Le mariage, hein, qui est donc une autre manière de se positionner, d'avoir un état dans l'Église, hein, et donc à la suite de la vie baptismale, hein, même comme vocation particulière en tant que chrétien. L'onction des malades, donc qui est, je dirais, on a parlé de porte d'entrée, et là c'est une sorte de porte de sortie, hein, pour... au moment où peut-être on vit, nous le verrons, l'onction de malade qu'on est toujours un peu habitué à l'appeler, non, à le rappeler comme
l'extrême
onction. Ouais, c'est affreux, hein. Voilà. Heureusement, la théologie du Vatican II a redécouvert ce sacrement et l'appelle l'onction de malade, ce qui veut dire qu'il peut être réitéré. On ne l'a pas qu'une fois au moment où on est... au dernier moment de la vie, mais au contraire, c'est un sacrement qui est donné à n'importe quel moment de fragilité, de maladie, voilà. Donc, et puis, vous voyez, où est l'erreur? On pourrait faire le jeu, où est l'erreur? Je me suis permis, et je pense que c'est une volonté, c'est tout à fait réfléchi, de mettre les funérailles. Hein. Pourquoi? Parce que, vous le savez, ce n'est pas un sacrement, le funérailles. Hein. C'est un rite qu'on célèbre au moment où celui ou celle, le baptisé ou la baptisée qui vit son exode dernier, son dernier exode, son dernier départ, voilà, vit et on partage au sein même de l'Église. Et donc, pourquoi les funérailles? Parce qu'effectivement, les funérailles, c'est un rite, une célébration qui est assez significative aujourd'hui. Et pourquoi les funérailles, c'est un moment significatif, même dans la réflexion des sacrements? Parce que tout en n'étant pas un sacrement, il est très proche de la dimension sacramentelle. Et parce que, comment dire, nous en parlerons à plusieurs fois, hein, parfois, aussi même ailleurs, on me demande, mais est-ce qu'il y aura toujours sept sacrements? Est-ce qu'il n'y en a que sept? Est-ce qu'il y en a six, cinq, huit, neuf? Et je pense que les funérailles sont en train de nous montrer qu'ils peuvent être un huitième sacrement. Nous verrons comment, pourquoi. Et parce que, effectivement, les funérailles résument, en quelque sorte, même dans la manière dont on célèbre les funérailles, toute la vie sacramentelle. Alors, ce n'est pas par hasard que, presque, si vous vouliez lire cela comme une sorte de poème ou de poésie, il y a une sorte de chiasme, comme on dit, poétique, c'est-à-dire un début qui est, auquel répond à une fin. L'initiation chrétienne, donc le baptême, la confirmation, l'Eucharistie, au baptême, la confession, répond les funérailles. Alors, vous avez assisté probablement à des funérailles et vous avez remarqué que tous les gestes que l'on fait sur le corps ou le cercueil, en présence du défunt, de la défunte, sont des gestes baptismaux. C'est peut-être un des seuls moments où on remet en valeur le cierge pascal, par exemple. C'est le seul moment où on met en valeur la lumière, l'encens, l'eau bénite. Voilà, donc il y a comme une sorte de répondant entre le sacrement du baptême, la confirmation, l'Eucharistie et le funérailles. Donc voilà un peu notre parcours. On va le voir peu à peu, donc avec des doses homéopathiques. Donc, en essayant de... Comment je vais faire? Comment nous allons procéder dans ce cours? Un peu, je fais un petit discours de méthode, comme ça, vous savez comment je vais me comporter, et puis n'hésitez pas. Tout d'abord, j'insiste toujours pour dire que ce n'est pas, comme on dit dans les universités, un cours magistral. Je ne vais pas m'asseoir ce matin à ma table et vous dire mot à mot ce qu'il en est du baptême, de la confirmation, de l'Eucharistie. Au contraire, je vais peu à peu,
suscitait en vous des questions. Alors du coup, et même des questions peut-être auxquelles je ne m'attends pas, et ce serait encore mieux, parce que ça m'a fait travailler les méninges. Et donc, mettez-moi en difficulté, c'est bien, donc n'hésitez pas, voilà. Et donc, on va dialoguer ensemble, en vérité. Bon, naturellement, il y aura des moments où vous me laisserez quand même parler un peu. Mais n'hésitez pas, vraiment, dans un dialogue tout à fait libre, hein, nous sommes entre nous, le mardi, c'est le mardi aujourd'hui. Nous sommes entre nous, n'hésitez pas, je ne suis pas un censeur, mais... un juge, vraiment, je suis tout à fait, je suis baptisé comme vous, hein. Donc du coup, les questions qui sont les vôtres sont les miennes aussi. Et donc voilà, première chose, très à l'aise, quand il y a des choses que vous ne comprenez pas, pour lesquelles je m'explique mal, vous me le dites et on réagit ensemble. Hein. Parfois je vous dirai, ça suffit, on continue, parce que sinon il faut tenir entre les pas. Deuxième chose, c'est un peu ma manière d'être. Hein. J'étais formé, et j'enseigne encore aujourd'hui, l'histoire du culte chrétien. Et donc, une partie des sacrements que l'on va regarder ensemble sera toujours donnée à la genèse des sacrements. Parce que nous pensons toujours que ce que nous célébrons aujourd'hui il a été toujours célébré comme ça. Ce n'est pas vrai du tout. Et donc, nous allons passer par le biais de l'histoire et regarder ensemble comment, par exemple, le geste baptismal tel que nous le recevons aujourd'hui a évolué dans l'histoire. Et pourquoi il a évolué ? Cela est très intéressant. C'est pas pour, l'exercice n'est pas que pour faire ressortir des greniers ou des vieilleries qui seraient passées. Non, c'est pour comprendre... L'histoire nous fait comprendre la cohérence d'un sacrement. Vous savez qu'une expression clé du Concile Vatican II a été celle, peut-être vous l'avez entendu ou vous l'entendez aujourd'hui pour la première fois, quand les pères conciliaires, c'est-à-dire les évêques et les spécialistes pour mettre en œuvre la réforme liturgique comme ils travaillaient, ont appelé une expression qui était celle de retour aux sources. C'est-à-dire qu'au moment où tout était un peu brouillé, chargé, je vous dirai pourquoi une liturgie peut se brouiller et charger, mais à un moment-là, pour mettre de l'ordre, on dit, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revenir à la source de ce que nous faisons aujourd'hui. Et donc, justement, nous le verrons, hein, on le verra ensemble, ils sont allés voir qu'est-ce que l'Église ancienne faisait, voilà, comment cela a évolué. Et de là, ils ont pris des positions, ils ont mis en œuvre, réformé, restauré, c'est encore mieux, certains rites. Pourquoi il y a besoin de revenir aux sources, donc de passer par l'histoire? Parce que, et là, les liturgies et les sacramentologues, vous avez retenu désormais ce mot, c'est vraiment comme ça, mais c'est comme ça. Quelqu'un qui réfléchit au sacrement sait d'emblée, comme disent ces spécialistes-là, que la liturgie, les célébrations liturgiques, les rites, le culte, sont comme un corps vivant. Disent-ils, ils grossissent. Vous avez remarqué, je le remarque à moi-même, nous ne sommes pas ce que nous étions quand nous étions jeunes. N'est-ce pas? Nous changeons. Parfois nous grossissons, parfois nous maigrissons, parfois le visage change, nous avons des douleurs. Mais les rites, au fur et à mesure qu'ils avancent dans l'histoire, grossissent, diminuent. Généralement, ils grossissent. Et donc, ils ont besoin d'être retrouvés dans leur signification initiale, originaire. C'est ce qu'a fait le Concile. A essayé, les spécialistes qui ont travaillé à ces sacrements, ont essayé d'enlever ce qui s'était ajouté et de retrouver l'image première. Une autre image, pour faire comprendre cela, qu'on donne assez souvent aussi, est celle d'un tableau. Vous savez que les tableaux, d'abord on les conserve d'une manière le plus possible, on les met sous vide, j'ai un peu des mots, je suis fan un spécialiste de ça, mais je pense que dernièrement, il y a des tableaux de Leonardo da Vinci, j'ai vu, pour lesquels on met des protections, qu'il met sous vide, donc il n'y a que toutes les possibilités, voilà. Mais jusqu'à maintenant, qu'on n'avait pas ce type de technique, les tableaux devaient être de temps en temps restaurés. Ou une mosaïque est restaurée, une fresque est restaurée. Et on va les trouver, généralement, quand on les restaure, les couleurs originaires. Voilà, c'est une autre image qui vous permet de comprendre qu'un rite, malgré lui, et parce que peut-être c'est un rite, peut risque de s'incruster et de ne pas percevoir l'origine de ce geste. Je dis toujours en plaisantant, mais ce n'est pas vraiment une plaisanterie. Si Jésus devait revenir aujourd'hui, et j'espère qu'il arrive vite, en vérité, nous l'attendons depuis 2000 ans, n'est-ce pas? Il nous dit, je reviens. Voilà. Eh bien, quand il reviendra, s'il devait participer à une de nos messes, il ne saurait pas. Il dirait, mais qu'est-ce que c'est ça? Mais justement, parce que cela a évolué. Ce n'est pas que nous faisons moins ou plus de ce que Jésus a dit, mais nous le faisons autrement. Et pour moi, il devrait juste apprendre à aller à la messe ou à baptiser, paradoxalement. Voilà, donc, je reviens à mon discours de méthode. Donc, il est extrêmement important, pour deux raisons, de passer par l'histoire. Ne pensez pas à des dates quand je dis histoire, parce que nous avons le rappel de nos cours d'histoire. Non, je ne vais pas vous parler de dates, ce n'est pas mon génie, mais plutôt les mécanismes de l'évolution de ces sacrements. Pourquoi? Il y a deux raisons qui sont importantes. L'une, c'est celle que je viens de vous dire, c'est d'essayer le plus possible de voir quel était le geste posé par le Christ ou par la communauté chrétienne qui a permis les sacrements qui sont les nôtres aujourd'hui. Et deuxième motivation, je dirais, c'est celle de nous permettre effectivement d'apercevoir les dynamiques des sacrements eux-mêmes. Les sacrements eux-mêmes. De retrouver, même au milieu de sacrements que parfois nous retrouvons un peu lourds, vous êtes d'accord? Parfois il y a des célébrations qui disent, oh là là, c'est quand il a fini celui-là, c'est vraiment le prêtre. Mais peut-être que, et c'est mon cas, assez souvent, comme il y a un livre qui s'intitule Je m'ennuie à pendant la prédication de prêtre. Parfois non, parfois oui. Mais même quand je m'ennuie, de savoir que cela a un sens. Vous voyez? Et donc on peut être présent à quelque chose que nous ne voulions pas vraiment comme ça, mais à l'église peut-être, si nous avons les clés pour le comprendre, cela devient plus facile. Voilà la deuxième motivation pour laquelle je vous invite à passer par l'histoire. Premier moment, tout sacrement sera vu d'abord dans son évolution historique. Vous savez aussi, je dis ça de manière très abrupte, nous sommes les derniers des chrétiens. Vous savez que le christianisme est en train de diminuer. Le nombre des chrétiens est en train de diminuer. Je ne sais pas si vous faites l'expérience de cela. Nos églises se vident, nos monastères. Non, les monastères peut-être non. Les monastères ont encore de la chance d'être fréquentés. Mais les moines se diminuent quand même. Mais il y a quand même fréquence dans les monastères. Mais disons, nos lieux de chrétienté, là où nous nous rassemblons, sont quelque part destinés à changer. Nous devons être conscients de cela. C'est une chance. Nous ne devons pas voir ça de manière négative. C'est une chance. Peut-être que justement, peu à peu, nous sommes invités à revenir à cette toute petite communauté chrétienne qui se réunissait dans les maisons. Je ne dis pas qu'il faut arriver à ça, hein. Mais peut-être. Mais voilà, donc, passer par l'histoire, c'est aussi important parce que ça nous fait comprendre d'où nous venons. Et relativiser nos malheurs à nous aujourd'hui. Parce que quand je vous dirais que l'Eucharistie était célébrée dans une pièce encore plus petite que celle-ci, vous direz, bon, heureusement, on a encore la paroisse qui célèbre, je ne sais pas quoi, deux messes le dimanche.
par exemple. Hein, voilà. Relativiser l'évolution de la, du vécu chrétien qui est le nôtre par rapport à ce regard de l'histoire. Ou, parfois, j'aime dire, l'histoire nous permet de, le détour par l'histoire, nous permet de nous détacher un peu de la vitrine. Vous savez, quand on va dans une vitrine trop près, on risque de ne pas bien voir. Plutôt, on peut s'éloigner. Hein. Même un tableau, c'est un tableau inutile de l'aller voir trop près. Au moins de regarder la technique des peintres, il faut prendre un peu de distance assez souvent. Hein. Et donc, l'histoire nous permet de prendre la distance par rapport à nos questions à nous, que nous pensons catastrophiques, qu'on ne peut pas dépasser, malheureuses, voilà. Premier moment. Deuxième moment, nous allons parler des sacrements à partir des rituels mêmes qui sont employés pour célébrer les sacrements. Qu'est-ce que j'appelle les rituels, au pluriel? C'est-à-dire les livres liturgiques qui sont indiqués par notre propre Église, l'Église catholique romaine, pour célébrer ces sacrements-là. Alors, généralement, nous prendrons le rituel de l'initiation chrétienne, qui célèbre les sacrements du baptême, de la confirmation de l'Eucharistie. Nous prendrons le missel romain, en gros, pour voir l'Eucharistie. Nous prendrons le rituel de la réconciliation pour voir quel est ce sacrement. Et je mettrai à votre disposition, pour pouvoir le comprendre ensemble, ces rituels. Généralement, je dis toujours, ces rituels, c'est rare que les baptisés les connaissent. Et pourtant, c'est dans ces rituels que nous retrouvons la théologie de ces sacrements. Pourquoi nous retrouvons la théologie? Parce que, effectivement, ces rituels nous donnent à la fois la manière dont on célèbre ces sacrements et nous disent pourquoi on les célèbre de cette manière-là. Il y a des introductions, nous verrons de plus près cela. Et donc, c'est à partir de cela que nous essayons de voir quelle est la théologie, c'est de la compréhension profonde des sacrements et quelle est la clé pour les comprendre, pour les vivre. Hein, pour les vivre. Voilà, ce sont ces deux moments que nous allons employer. Est-ce qu'il y a des questions sur ce que je viens de vous dire d'emblée? C'est clair? On y va avec les sacrements d'initiation? Voilà. Le premier plan. Alors, oui, je vous dis, je suis un homme de parole, peu d'écriture. D'où la machine pour enregistrer. Donc, si vous voulez retrouver quelque chose que vous avez perdu dans notre discours, dans notre dialogue, vous demandez à Anne, n'est-ce pas? Je pense qu'il faut demander à Anne. Au CIF, voilà. Elle va vous envoyer l'enregistrement du cours. Mais par contre, il y a quand même une cohérence. Je suis un homme de parole avec un peu de cohérence. Donc, du coup, vous avez un plan. Je vais suivre les plans généralement. Et je vais vous donner, parce qu'on va les lire ensemble, des documents pour faire ce plan. Là, aujourd'hui, nous commençons cette partie, donc, les sacrements de l'initiation chrétienne. Et nous allons parcourir. Oui, tout d'abord, l'aspect historique, l'évolution historique. Vous le voyez d'emblée dans le plan. Hein, on a ce que j'appelais le témoignage de la tradition de l'Église. Et nous passons par le Nouveau Testament. Donc on commence par qu'est-ce que le Nouveau Testament nous dit de ces gestes-là, de comment on est initié à la vie chrétienne. Et puis, on va regarder le développement de l'histoire avec, j'y reviendrai, mais avec des documents qui sont très importants pour voir comment cela a évolué. Les documents, ce ne sont pas des légendes, ce sont des documents historiques, et donc qui nous permettent de toucher un peu, avec nos mains et notre compréhension, comment cela a pu évoluer. C'est important parce que, aujourd'hui, c'est souvent, même nos amis,
nos petits-enfants nous demandent mais pourquoi ce sacrement, d'où ça vient, ce geste. Alors, du coup, cela nous permet de voir. J'ai bien intitulé ça « Le témoignage de la tradition de l'Église ». C'est une clé aussi pour comprendre cela. Tout nous a été transmis. Le mot tradition est extrêmement important. Vous savez que le mot tradition peut avoir, entre guillemets, mauvaise presse, dans la mesure, et il y a des milieux qui l'emploient de manière un peu parfois, comment on pourrait dire ça, négative. Hein? On passe tradition, on passe toujours quelque chose de figé. C'est une tradition. En vérité, le mot tradition est beaucoup plus intéressant de ce que l'on pense. Il y a dans le mot traditio, tradere, le mot paradosis en grec. Je vous donne quelques mots. Donc, tradition. Le mot le plus proche est le mot latin, hein, traditio. Le mot grec, hein, je le transcris, c'est paradosis. Le mot grec, peut-être, c'est le mot plus intéressant pour comprendre cela. Donner à travers, faire passer à travers. Eh bien, regardez la manière dont un sacrement a été transmis tout au long de l'histoire, justement, nous fait toucher quoi ? Le geste originaire de Jésus. Donc, du coup, ce geste nous est parvenu jusqu'à nous. Mais ça ne suffit pas. Ce n'est pas que nous regardons seulement derrière, à nous. Mais si c'est une tradition, c'est à nous qui revient de le transmettre. Vous voyez ? Donc, c'est quelque chose de dynamique. Ce n'est pas une conservation. Mais c'est une action. Il faut transmettre cela. Comme nous le pouvons, selon nos possibilités, peut-être nos fragilités, nos manières de faire, mais quand même, dans le geste même de donner quelque chose à quelqu'un, il y a toujours un lâcher-prise. Je dis toujours, et je ne sais pas, ça me met toujours dans des pensées profondes, spirituel, je peux vous le dire. Ma question, et je pense qu'elle n'y pense pas assez, est-ce que vous avez jamais pensé, nous sommes les héritiers, si je peux dire, de ce que Jésus nous a donné, nous nous disons chrétiens, du Christ, eh bien, nous avons reçu de lui quelque chose que lui-même a lâché. Quand il dit « Faites ceci en mémoire de moi », c'est la perte la plus totale. Comment il pouvait penser que des pécheurs, au double sens du terme, pouvaient continuer ce qu'il avait commencé ? C'est la perte la plus totale. Alors souvent on dit, justement, là, vous avez entendu parler du mot « kénose ». Ça vous dit quelque chose ? Non ? Bon, c'est un mot qu'on retrouve dans un passage de la lettre aux Philippiens. Paul emploie ce mot pour dire, vous savez, quand Paul dit « Le Christ qui était de condition divine ne retenait pas comme une jalousie de garder cela, mais il se donna lui-même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. » Vous voyez, c'est bien ce passage. Et quand il dit qu'il est allé jusqu'au fond, il emploie ce mot « kénose » encore. On a construit ce mot « kénose ». Il s'est vidé. Et on pense toujours cela par rapport à sa mort. Et on ne pense jamais cela par rapport au fait qu'il a donné, il a livré des gestes tout simples, comme par exemple le partage du pain à la scène, à des gens qui peut-être n'auraient jamais transmis cela. Et donc, vous voyez, faire un acte de tradition, c'est-à-dire transmettre ce que nous avons nous-mêmes reçu, nous met en état, je dirais, dans un état tout à fait grave et heureux à la fois, de transmettre ce que Jésus nous a donné. Et les sacrements sont cela. Les sacrements sont cela. Pour nous, parce qu'on les a faits sur nous, je pense le baptême, la confirmation. Et pour les autres, si nous les transmettons d'une manière ou d'une autre. Et donc, effectivement, nous allons regarder le témoignage de la tradition de l'Église. Et quand je dis l'Église, c'est l'Église des baptisés, l'Église des croyants. Ne pensez pas à l'Église institution, naturellement. L'Église qui se réunit pour célébrer le Christ ressuscité dans ses gestes fondamentaux comme le toucher, l'eau, le pain, le vin, l'huile, tous ces gestes qui sont pour lesquels sont, se construisent les sacrements, se disent les sacrements. Et donc, je voudrais d'abord partir de la notion d'initiation, parce que nous sommes là dans les sacrements de l'initiation chrétienne. Nous sommes habitués, depuis au moins le Concile Vatican II, à appeler, comme je vous disais, les sacrements du baptême, de la confirmation, de l'Eucharistie, les sacrements de l'initiation. Vous savez, avant le Concile, on ne les appelait pas les sacrements de l'initiation. On les appelait le baptême, la confirmation, l'Eucharistie. Eh bien, ce type de notion est une notion que le Concile redécouvre, en quelque sorte, grâce aux études, aux ouvertures, aux réflexions qui ont été faites à la fois dans les sciences, par les sciences humaines, et l'histoire aussi. Dans la mesure où on a redécouvert peu à peu, d'une part, si on regarde l'histoire, qu'effectivement, ces sacrements-là, on les appelait tout au début de l'Église, notamment au 4e, 5e siècle, une initiation, initiation au sens de être initié à une vie chrétienne, de commencer une vie chrétienne, de la commencer à travers un temps, des étapes, comme on peut avoir lieu une initiation encore aujourd'hui. Et les sciences humaines ont découvert peu à peu que, notamment par l'anthropologie, pensons aux grands anthropologue Lévi-Strauss, par exemple. Lévi-Strauss découvre que dans certaines populations du monde, les enfants sont initiés à la vie d'adulte. Et donc, il va étudier quelles étaient les étapes. Alors, parfois, on laisse les étapes en dehors du village, on les fait rentrer peu à peu dans le village, on leur fait faire des rites d'initiation. Bien, tous ces deux mondes de l'histoire, les sciences humaines, l'histoire et l'anthropologie, vont faire découvrir effectivement l'importance du mot d'initiation. Entendu comme, on pourrait dire, les rites d'initiation étant des rites qui permettent de rentrer dans une situation, dans une croyance, dans une manière de vivre. Et donc, effectivement, c'est le Concile Vatican II qui va donner, nous le verrons dans la deuxième partie de ce cours sur les sacrements d'initiation, va donner au rituel même, au livre liturgique qui sert pour célébrer les sacrements, le mot de « initiation chrétienne », rituel de l'initiation chrétienne des adultes. Donc ce mot a la particularité et la force de dire que, et ça c'est très important pour nous, qu'un sacrement, on ne reçoit pas d'un coup. Dans un sacrement, on y rentre peu à peu. Il n'y a pas de magie en christianisme. Il y a liberté, dialogue, rencontre. Et toute rencontre, tout dialogue, toute relation demande toujours, comment on peut dire ça, un apprentissage. Si vous êtes marié, vous n'avez pas rencontré votre fiancé ou l'homme ou la femme que vous avez aimé d'un coup.
ça peut arriver, hein. Mais disons, vous avez eu besoin de le connaître peu à peu. Autrefois, il y avait les fiançailles. Aujourd'hui, on vit ensemble, généralement. C'est une sorte de fiançailles à notre... adaptée aux besoins d'aujourd'hui. Mais n'importe, demandez à n'importe quel couple qui vit ensemble aujourd'hui, il vous dira, nous sommes là, nous ne savons pas si nous marions, mais quand même nous apprenons à vivre ensemble. Voilà, c'est la, le mot initiation a dedans, c'était de apprendre à vivre. Rentrer peu à peu. Et quand je dis rentrer peu à peu, ça veut dire que généralement, dans le vivre ensemble, il y a un temps, des étapes, des gestes. Vous voyez, je ne sais pas aujourd'hui, autrefois, on ne s'embrassait pas tout de suite. On commençait à parler, prendre un café. Puis il y avait le moment où tout cela se faisait. Vous voyez, donc, c'est pareil dans la vie chrétienne. Le mot initiation est très intéressant parce qu'il nous dit nous sommes libres vis-à-vis de Dieu. Et nous rentrons dans sa vie libre. Il ne nous impose rien. Et Dieu ne fera jamais rien sans nous. Dieu ne fera jamais rien sans nous. Et donc, le mot initiation nous dit cela, ces sacrements du baptême, de la confirmation, de l'Eucharistie peuvent être dits de l'initiation parce qu'on rentre dans la vie divine peu à peu.
Oui. Alors, on en parlera peut-être quand on parlera du mariage.
Oui.
Mais pourquoi l'Église n'est-elle pas reconnue, justement, comme elle le fait, vous êtes bien placé pour le savoir, avec le noviciat, qui est un temps d'adaptation.
Oui.
Pourquoi l'Église n'a pas reconnu dans le mariage, justement, cette période intermédiaire qu'aujourd'hui, les jeunes, enfin, que les couples, oui, effectivement, dont vous parlez, mettent en place de vraies, oui, vie, oui, communes. Pourquoi a-t-elle été si interdite?
Oui, la vie commune avant le mariage.
Avant, oui,
c'est ça. Mais parce que je pense, d'abord, il faut toujours penser ça. Hein. L'Église, dans ses rites et dans sa manière de penser, est plus lente que les événements de la société.
Oui,
donc il y a un aspect sociologique tout à fait. Généralement, les traditions sont plus lentes que le vécu. Nous le verrons pour le mariage. L'Église n'a pas tout de suite pensé au mariage. L'Église a greffé, si je peux dire de manière un peu rapide, le sacrement du mariage dans quelque chose qui existait déjà. Donc, ça, c'est pour ça que je pense très positivement à l'avenir du mariage et de vivre en commun. Parce que je pense qu'un jour ou l'autre, moi je suis convaincu, peut-être je chante un peu hors le cœur là, mais c'est bien de chanter un peu hors le cœur, c'est bien que d'autres nous apprennent aussi. Je pense qu'un jour ou l'autre, l'Église sera confrontée, devra se prononcer sur quelque chose qui est déjà là. Alors, je me permets de ne pas vous scandaliser, hein. Je mets plusieurs choses, hein. Je mets ce que vous dites, je mets les liens homosexuels. Il y a quand même ça aussi, hein. Il y a des couples de croyants.
Oui.
Homosexuel. Alors pourquoi l'Église doit toujours taper dessus? Ou pourquoi elle ne doit pas reconnaître cette union? Je ne veux pas vous scandaliser.
Non,
vous vivez quand même dans cette société.
Je pense que c'est la trouille du corps, c'est la trouille de la sexualité.
Voilà, il y a beaucoup de choses de ce type-là. Vous avez tout à fait raison.
Et puis l'éducation des filles.
Vous avez tout à fait. La place de la femme, n'en parlons pas.
Oui, c'est ça.
Entre parenthèses. Tout ça fait partie des mentalités. Les historiens nous ont habitués, et pour ça c'est important de parler de l'histoire, de dire que généralement un événement et quelque chose de précis se passe, une révolution se passe.
Oui.
Mais les mentalités sont beaucoup plus lentes. Donc il y a une révolution dans la société aujourd'hui. Il y a une mutation forte. Ce mot me tient à cœur. Parce que vous verrez, tous les changements de la manière de célébrer un sacrement advient à cause de mutations dans la société. Mais l'Église, à un moment ou l'autre, comprend qu'elle doit investir, elle doit être présente, voilà, c'est plutôt juste, elle doit être présente à ces mutations. On peut dire que le pape, quand même, le pape actuel, que Dieu lui donne vie, tant qu'il peut, il nous ouvre à cette perception. Il est sensible, certaines de ses encycliques, certaines de ses... de ces documents qu'il a pu écrire, promulguer, dit « prenez compte quand même de cela ». Donc voilà, j'espère qu'effectivement, et nous le verrons pour le mariage, que l'Église fasse ce qu'elle a fait pour le mariage. Comme je vous disais, le mariage est symptomatique de cela. Pendant un millénaire, on célébrait le mariage de manière civile, ou disons coutumière. Et puis vers le 11e, 12e siècle, l'Église dit, ah tiens, ce serait bien de lui donner un aspect sacramentel. Et le mariage rentre dans la liste des sacrements. Mais il a fallu un millénaire.
J'espère qu'il fallait un millénaire pour que ça évolue par rapport à,
j'espère que non.
À tout ça, parce que sinon il n'y aura pas d'Église.
Tout à fait.
Il y a une vous avez raison. Chance en ce moment qui n'autorise plus d'attendre
Vous avez raison. Mais il n'y aura pas de millénaire, parce que je pense que les moyens de communication ne sont plus les mêmes. Le premier millénaire était beaucoup plus lent de ce que nous vivons aujourd'hui. Et parce que je pense qu'effectivement, le pape nous a invités à ça. Il n'y a pas que l'Église hiérarchique qui doit se décléricaliser, mais aussi les baptisés qui doivent se décléricaliser. Dit-il le pape. Hein?
Ah oui, c'est vrai.
Nous avons une mentalité un peu cléricale, assez souvent.
Vous faites référence à quel texte?
Ben, le pape l'a dit par rapport à la pédophilie.
Oui.
Quand il a vu le document précis.
Et puis aussi tout à l'heure. Se décléricaliser, c'est dans le même texte que la.
Quand il parlait de la pédophilie, il parlait de cela.
Mais aussi de vis-à-vis des laïcs, laïcs en charge de mission.
Voilà. Je vais vous donner l'exemple, parce que l'exemple qui m'a choqué à son temps, mais je pense que c'est tout à fait vrai. Une de mes étudiantes, qui pourrait être l'une de vous, l'un ou l'une de vous, d'entre vous, un jour, on me dit, vous savez, dans ma propre paroisse, il y avait autrefois des, comment on appelle déjà ça, des enfants de cœur, filles, dans le sanctuaire, à côté du prêtre, avec des enfants de cœur, garçons. D'un dimanche à l'autre, c'est terrible même symboliquement, il n'y avait que des garçons. Et les filles, on les a mis à la porte de l'église, symboliquement assez fort, hein, avec une chape, distribuer des feuilles. Voilà, alors, attendez. Et là, elle dit, et je dis, mais quand même, le curé n'a rien dit. Elle dit, mais ce n'est pas le curé, ce sont les parents qui ont demandé ça.
Pourquoi?
Ah ben, je ne me demandais pas. Ça dépend des paroisses. Hein. Je donne cet exemple.
Oui, parce que dans les paroisses, c'est bien les prêtres. Hein.
Parfois, justement, le prêtre pourrait dire non, j'accepte pas. Voilà.
Parfois, c'est ceux qui disent.
Voilà. Mais pour vous dire que il n'y a pas que la cléricalisation des prêtres. Hein. Il y a aussi parfois, dans nos propres mentalités, une cléricalisation. N'est-ce pas?
Il faut dire aussi que c'était confortable, un petit peu aussi.
C'était confortable?
Oui, d'être dans cet état d'esprit.
Ah oui.
De laisser faire pour ne pas avoir
ah oui d'accord de laisser faire au prêtre voilà de déléguer ne déléguons jamais en tant que baptisés nous sommes en plein droit nous le verrons dans le rituel
c'est
pas perçu comme ça bien sûr mais on est bien là pour comprendre mieux. Vous voyez, donc je reviens à votre question, on n'attendra pas un millénaire, mais ce millénaire, ça va se raccourcir, je peux le dire, dans la mesure où nous aussi nous participons au changement. Oui. Vous voyez, je dis de manière, mais pas avec des pancartes, hein, en vivant,
Tout simplement, vous voyez, je ne sais pas si vous dire ça, je vous dis. Je vous le raconte. Je vous le raconte. Pour vous donner un exemple, j'étais dans mon monastère à l'Hérens, je vais à la porterie après une célébration de la messe le dimanche, par hasard, hein, un monsieur m'interpelle et me dit, écoutez, merci pour la messe, voilà. Hein. J'aurais voulu, moi et ma femme, venir à la communion, mais nous ne pouvons pas parce que nous sommes des divorcés et mariés. Et je lui ai dit, mais vous vous aimez, vous êtes loin de votre paroisse, vous n'avez aucun problème de faire scandale dans une abbaye. Allez communier, vous devriez aller communier. Là, je me sentais en droit de leur dire.
Oui, c'était pour éviter le scandale.
Et je me sens extrêmement, chrétien et catholique, dans la mesure où le pape, en plus, nous a invité à dire, c'est une question de conscience. Ça y est ?
Oui.
Quand je dis il faut avancer, c'est en ce sens-là. Prendre sur nous, hein, c'est ce que généralement, malheureusement, les clercs, les prêtres ne savent pas faire, hein. Mais ça, c'est un autre discours.
Oui.
Disons, n'importe, là, c'est vraiment une question de sensibilité. Il faut créer une autre mentalité, c'est ça que je veux dire, pour revenir à votre question. Il faut aider notre propre Église.
Oui, mais je pense que dans ce que vous dites là, qu'est-ce qui prédomine ? C'est pas tant le rite, la structure, la loi, mais c'est bien la charité, l'amour.
Bien
c'est
sûr.
C'est ça qui doit prédominer
bien sûr.
Dans la chose. Oui. Si on reste effectivement sclérosé sur c'est comme ça qu'il faut faire,
malheureusement, on est loin d'être chrétien en cela.
Je crois que c'est oui. Je crois que c'est quand on est comme ça.
Quand je pense à Jésus face à l'adultère, se mettant un pied par terre pendant que les autres veulent la lapider, le geste de Jésus était bien au-delà de la loi mosaïque. Hein, donc, du coup, je crois que parfois, nous devrions être un autre Jésus qui est pied par terre.
Mais là, quand on se dit ça, je ne sais pas comment vous êtes, vous, hein, on se dit c'est au marteau-piqueur qu'il faut aller par rapport à toute l'éducation. Et l'enseignement qu'on a reçu.
C'est ça.
Parce que là, on a des couches successives qui nous enrobent et qui nous enferment.
Alors, chacun de nous a sa sensibilité. Hein. Moi, je suis plutôt un résistant. J'aime plutôt être présent là où il faut être présent. Alors, du coup, je me dis, on m'empêche de, j'y vais. Le curé éloigne la fille, je me dis, mais quand même. Je vais lui dire, lui rappeler, mais qu'est-ce qu'il y a de quel est le problème? Vous voyez, il faut aider nos prêtres.
Oui.
N'est-ce pas?
Ah oui.
Voilà. Donc du coup, il faut prier pour nos prêtres, j'en connais.
Mais avec délicatesse.
Bon, mais avec délicatesse. Ouais, mais non, mais n'importe, parfois il faut être mieux. Mais vous voyez, je pense qu'il faut la conviction d'être chrétien, d'être baptisé. N'est-ce pas? Tout ça pour dire, j'en étais sur le mot initiation et le fait qu'on y va par étapes, justement le changement se fera peu à peu. On était dans le cas du vivre ensemble hein, avant le mariage. Je pense que c'est normal. Je dis toujours de manière très libre et heureuse, je ne sais pas où j'ai laissé mes papiers, là. Une autre anecdote pour vous faire comprendre, une fois j'étais dans la maison de ma mère à Turin et aucune de mes nièces est mariée, c'est-à-dire mariée. Est mariée à l'église ou est mariée même civilement, je vais vous dire. Donc c'est encore plus. Une fois une des nièces était là chez ma mère et ma mère, qui est quand même grand-mère, dit mais Claudio, au nom de baptême est Claudio. Hein. Claudio dit quand même à Chiara que, voilà, qu'on a entendu que ceux qui sont divorcés et mariés ne peuvent pas communier. Et ma nièce me dit, mais tonton, est-ce vrai? Bon, je dis, oh, tu sais, effectivement, l'Église a dit que, mais je pense que si en conscience, surtout que. Oui, parce que tu sais, tonton, moi j'ai l'air communier, mais je ne savais pas qu'on pouvait pas. Je trouvais ça génial.
Ouais.
Pourquoi il faut charger d'un péché quelqu'un qui sait de ne pas pécher? C'est terrible. Est-ce que le christianisme est ça? Non. Le christianisme nous libérait. Vous voyez? Donc, voilà, la parole qui était la mienne. Très peu de choses.
mais changer la mentalité dans ma famille. Quand je dis il faut du temps, mais on peut déjà hâter le temps. Dans le quotidien. Voilà, donc tout ça. Pour dire que voilà, la notion d'initiation nous fait comprendre que cela advient dans le temps et par des étapes, et nous fait parvenir à ça. Et donc, quand on regarde le Nouveau Testament, on peut voir effectivement que nous avons des sources du Nouveau Testament. Et tout d'abord, nous avons les lettres de Paul et son école, parce que vous savez, vous l'avez appris aussi, pas toutes les lettres attribuées à Paul sont de Paul, n'est-ce pas ? Les petites révisions bibliques. Donc, on regardera d'abord ça, et puis les actes des apôtres. Pourquoi, et les évangiles, pourquoi cet ordre, ça vous le savez aussi, ou vous allez l'apprendre, généralement, pour ces questions de gestes sacramentels, le baptême ou l'Eucharistie, Paul est toujours le plus ancien. Paul donne toujours la source la plus ancienne, avant même les évangiles. Et donc, quand on regarde les écrits de Paul, on peut constater que Paul nous offre les premiers enseignements sous forme d'allusion. Paul n'a jamais dit « voilà comment on baptise ». Mais par des allusions, Paul nous dit quelle pouvait être l'expérience baptismale des communautés auxquelles il s'adresse. Je vous donne quelques exemples. Tout d'abord, dans la première lettre aux Corinthiens. Dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 1, versets 10 à 17, Paul est face, dans cette lettre, vous le savez, ou je vous le rappelle, doit faire face à des divisions dans l'église de Corinthe, à des factions qui minent l'unité de la communauté. Je vous lis le passage où il parle de ces divisions, justement dans ce verset que je vous ai cité. Je cite. « En effet, mes frères, les gens de Chloé m'ont appris qu'il y a des discordes parmi vous. » Ouf. C'est déjà au temps de Paul. Chez nous, ça va bien. Voilà. Il y a des discordes parmi vous. Je m'explique. Chacun de vous parle ainsi. Moi, j'appartiens à Paul. Moi, à Apollos. Moi, à Céphas. Moi, au Christ. Et puis Paul reprend. Le Christ est-il divisé ? Est-ce Paul qui a été crucifié pour vous ? Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé ? Dieu merci, je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius. Ainsi, nul ne peut dire que vous avez été baptisé en mon nom. Ah si, j'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Pour le reste, je n'ai baptisé personne d'autre que je sache. Ce passage est très intéressant. Pourquoi Paul semble indiquer, oui, c'est des allusions, c'est 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 10 à 17. Dans ce texte, c'est très intéressant, parce que Paul semble indiquer que le baptême, le geste baptême, le fait de plonger quelqu'un dans l'eau, on y reviendra, était administré au nom de Jésus. Pourquoi il dit, il était baptisé de Céphas, de Paul, hein? C'est ainsi qu'il va affirmer plus loin. Toujours dans un autre passage de la première lettre aux Corinthiens, chapitre 6, verset 11, 1 Corinthiens, là où il dit, je cite, « Voilà ce que vous étiez. du moins quelques-uns. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom de Jésus-Christ par l'Esprit de notre Dieu. L'expression « au nom de », être baptisé au nom de, dit qu'il y avait probablement un rite de baptême, du baptême que l'on faisait au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est un sémitisme, hein? Au nom de, ce n'est pas une formule magique, comme nous pourrions penser, mais c'est de dire ce geste te lie, te relie, t'unit au Christ lui-même. Et toujours dans cette même lettre, celle de Corinthiens, le terme sanctifié pourrait faire ainsi penser qu'il s'agit encore du baptême. Hein? Là où Paul dit ceci, je le cite dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 7, verset 14, il dit ceci, « Car le mari non croyant, est sanctifié par sa femme. Et la femme non croyante est sanctifiée par son mari. S'il en était autrement, vos enfants seraient impurs alors qu'ils sont saints. » Par là, il est dans un contexte de mariage qu'on dirait aujourd'hui mixte, d'une femme baptisée et d'un mari non baptisé, ou d'un mari baptisé et d'une femme non baptisée. Pour lui, le mot sanctifié veut dire célébrer le baptême, vivre le baptême. Le baptême sanctifie, mais à part, fait devenir chrétien. Dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 5, verset 26, dans un contexte de morale domestique, notamment des relations entre hommes et femmes. Donc, Éphésiens 5, 26. Notamment dans les relations entre mari et femme, l'auteur de la lettre, qui n'est plus Paul, parce que c'est de l'école de Paul, va rapprocher par analogie cette relation entre l'homme et la femme de celle qui existe entre l'Église et le Christ. Entre l'Église et le Christ. Je cite le passage, il dit, « Le Christ, qu'il a voulu ainsi l'Église, la rendre sainte en la purifiant avec l'eau qui lave, et cela par la parole. » À nouveau, il y a l'idée de sanctifier par l'eau. Et on retrouve ces allusions-là. D'autres écrits du Nouveau Testament laissent entrevoir qu'une pratique et une doctrine du baptême sont un bien commun des communautés chrétiennes. Je pense notamment, vous irez voir, notamment la lettre aux Hébreux. La lettre aux Hébreux, au chapitre 6, versets 1 à 2, ou encore chapitre 10, verset 22.
Le chapitre d'avant, c'est...
Donc, 6, 1 à 2, et puis 10, 22. Là où on parle clairement du baptême, par exemple, comme illumination. Dans la lettre aux Hébreux. Ou encore, un peu plus tard, dans la première lettre de Pierre. Dans la première lettre de Pierre, au chapitre 3, au verset 21. C'est assez intéressant. Pierre va mettre en rapport, en analogie, le déluge, Noé, qui monte... Qui rentre dans l'arche et qui traverse les eaux du déluge. Pierre met en parallèle ce moment de l'Ancien Testament avec le baptême chrétien. Comme si le baptême chrétien faisait passer par l'eau hein, pour être sauvé. Voilà, donc, on sent bien là que dans le christianisme des écrits néo-testamentaires, il y a effectivement la perception que le baptême, je résume, sanctifie, met en relation au Christ, sauve, selon ce que dit Pierre. Je vous propose de faire une pause avant les actes des apôtres.
Quelque chose qui se lâche, qu'on doit lâcher.
C'est ça. C'est lâcher alors, prise de quelque
et là,
chose.
Vous avez parlé de la liberté.
Oui.
Quel est le lien entre cette histoire de lâcher quelque chose et la liberté?
Parce que je faisais référence à la kénose du Christ, à ce que j'appelle
la kénose,
une autre kénose, la perte, la plus extrême. C'est-à-dire que quand je lâche quelque chose, je ne veux pas que l'autre me tienne la main. Je laisse libre l'autre de passer cela ou non.
D'accord.
Vous voyez?
Donc,
le Christ nous a laissé libre.
D'accord. Parce qu'il l'a lâché, on est libre.
Faites ceci à mémoire de moi. Faites ceci quand il est mort, vous pouvez aller n'importe où.
Dans cette histoire de décléricalisation, on n'a pas du tout abordé le problème du pouvoir. Il y a un problème de pouvoir qui retient le mouvement de changement.
Parce que
c'est peut-être pas l'objet de ce cours, mais c'est quand même ça que je sens très pour moi dans ma communauté, dans ma paroisse, je vais jouer à Saint-Denis. S'il y avait pas de, le problème de pouvoir et de l'ego, dans le royaume, on y serait tout de suite. Quoi.
Et ça, c'est un péché pour le commun.
Carrément, on l'appelle péché. C'est le seul que je reconnaisse, en fait. C'est le seul que j'appelle péché.
Qui nous est commun, mais moi aussi, j'ai un droit.
On peut avoir un égo sans avoir besoin
de pouvoir. Oui, mais souvent,
le problème
du
clericalisme, c'est le
pouvoir. C'est le pouvoir. Il y a ça, il y a le domaine de la conscience. Le clericalisme n'est pas que le pouvoir. C'est tellement. Et notamment, en me touchant, je le vois dans une vision.
Parce que tu as besoin,
bien sûr.
Tu as besoin. Je ne sais
pas où tu t'en. C'est-à-dire, jusqu'à maintenant, je l'ai considéré, moi, je ne l'ai plus toujours pas.
C'est que toi, tu as
toujours compris. Moi,
c'est
tout.
Moi,
toi,
tu as toujours compris. Mais je n'ai jamais vu ça. Cette façon-là de voir.
Nous le verrons dans l'histoire de la confession, dans la confession, c'est le cœur. Après, on a mis sous le contrôle de l'essence dans une.
C'est très ancien.
Oui, comment cela peut surgir.
C'est
j'essaie vraiment de dire, c'est à nous. Il n'y a pas que le prêtre.
J'entends très fort ce que vous avez dit tout à l'heure, qui aussi me touche, c'est que vous avez dit que c'est des gestes, c'est agir, on doit agir anticlérical. Et agir, ça veut dire que quelque part on doit se remonter les manches, parce que aussi le pouvoir qu'on a laissé au clérical, c'est autant de boulot qu'on a pu faire.
C'est comme je le sais.
C'est grave, quoi, parce que ces gens-là ont même une énorme part de
dans le métro, on a encore la mentalité qui se dévoile. Nous sommes des malades, nous sommes des clérigos inconscients.
Je voudrais vous poser une question qui est peut-être ridicule. Peut-être, c'est parce que c'est un petit détail. Mais il y a eu une époque où dans l'église, les petites filles servaient la messe où il n'y a jamais eu.
Alors,
parce qu'il y a
un geste. Il y a eu, alors, je dire, on est il y a eu même des missions. Parce que nous avons besoin. C'est donc, mais généralement, la question de se dire à la messe, c'est quelque chose de récent.
Ah, voilà. C'est ça que je veux
dire. Il n'y a pas beaucoup bougé.